Bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin pour partager la parole de Dieu, enfin pour enseigner un passage en particulier. Comme j'ai déjà débuté l'enseignement systématique de la première épître de Paul à Timothée, ce matin nous sommes arrivés au passage du chapitre 3 et nous allons lire tout ce chapitre. Et puis, passer à travers verset par verset. Alors, je vous propose premièrement de lire le texte. Je vais ensuite prier brièvement. Et puis, par la suite, présenter une introduction au sujet des anciens, parce que c'est le sujet de ce chapitre d'une manière particulière. Et par la suite, nous allons exposer le texte, Dieu voulant. Alors, lisons premièrement 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine, que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non à donner au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Assemblée de Dieu? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux du dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci soient aussi, premièrement, mis à l'épreuve, ensuite, qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. De même, que les femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les serviteurs soient maris d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Je t'écris ces choses espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Quel texte! C'est merveilleux. Prions. Seigneur, nous nous réjouissons à la lecture de ta parole parce qu'elle est si riche, si profonde, si vraie, si authentique. Merci Seigneur de nous donner de tels textes qui nous dirigent, qui nous montrent la voie à suivre, qui nous donnent l'instruction nécessaire. Seigneur, nous prions que ce passage puisse d'une manière ou d'une autre parler à notre cœur pour nous affermir dans la foi. Et que l'Église puisse t'honorer, te glorifier en obéissant à ta parole. En toute chose, au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen.
Amen.
Évidemment, ce texte est un passage qui nous parle, en fait, de deux sujets principaux qui sont rattachés ensemble. Il nous parle de ceux que Dieu appelle à être les conducteurs spirituels de l'Assemblée, les anciens, appelés ici surveillants. Ailleurs aussi, parfois, on utilise des verbes comme paître, conduire, travailler, etc. Il y a beaucoup de synonymes utilisés ou de termes pour parler du travail, du caractère, du ministère, du service des anciens. Mais le mot ancien est celui qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament, pour désigner ceux qui sont appelés à être conducteurs spirituels dans l'Assemblée. Mais de quelle manière doivent-ils conduire? Ça, c'est le point, et c'est exactement ce que nous voyons ici. En particulier, le caractère et la conduite de ceux qui sont appelés à être conducteurs spirituels, à être anciens. Mais il y a aussi le sujet de ceux qui sont appelés à être administrateurs. Ce sont ceux qu'on appelle souvent les diacres, ou les diaconesses, parce qu'il y a dans ce passage clairement des instructions de Paul pour ses sœurs qui sont aussi appelées à avoir un certain ministère d'administration. Bien sûr, tout cela afin que ça puisse servir à l'édification de l'Assemblée et non pas à l'élévation d'aucune personne en soi. Le plus grand leader spirituel, on dit souvent chez nous, sera celui qui sert, qui est un modèle de service. Je ne peux pas réintroduire toute la question des anciens. On a regardé cela il y a peut-être 2 semaines maintenant, dimanche soir à Pampigny. Et puis, l'enregistrement est disponible pour ceux qui veulent avoir cet enseignement sur ce que la Bible dit, et en particulier, bien sûr, le Nouveau Testament sur le rôle des anciens. Alors, je vais plutôt me préoccuper ici maintenant de ce que Paul nous donne comme qualification que doivent rencontrer ceux qui sont appelés, d'une part, à conduire spirituellement le peuple et à ceux qui sont aussi appelés à administrer différentes questions touchant la vie de l'Assemblée locale, ce qu'on appelle souvent l'Église locale. De quelle manière Paul introduit ce sujet par une expression qu'il utilise 5 fois à travers les épîtres pastorales, c'est-à-dire à travers 1, 2 Timothée et Tite? Cette parole est certaine. C'est une formule d'introduction lorsque Paul veut présenter un sujet important ou lorsqu'il veut vraiment attirer l'attention sur quelque chose qui est vrai, qui est fidèle, qui est authentique, dont on a vraiment besoin de porter attention. Alors, quand vous lisez « Cette parole est certaine », Paul, il veut vraiment attirer l'attention sur ce qui vient. Et dans la suite du passage, il va introduire donc celui qui aspire à la charge ou au travail de surveillance. Et Paul dit que c'est une belle aspiration et que ce désir est bon, c'est une bonne chose. Il désire fortement, littéralement, le verbe qui est utilisé par Paul ici. Donc, celui qui aspire, dans le sens qui cherche à accomplir un but spécifique parce qu'il a à cœur l'Assemblée. Donc, ce verbe aspirer parle de vouloir accomplir quelque chose de particulier. Paul, il dit, c'est un désir très fort et qui est bon. Il désire une bonne œuvre. La surveillance dont il est question ici, c'est la surveillance de l'Assemblée, particulièrement d'un point de vue doctrinal. C'est surtout de s'assurer que dans l'assemblée locale où nous sommes appelés à nous investir en tant que conducteurs spirituels, il n'y ait pas de fausse doctrine qui entre dans le rassemblement. C'est surtout cette surveillance dont il est question dans le mot « épiscopos » ou « épiscopé » ou tous ces mots qui ont été traduits soit par « surveillant » ou « évêque » dans la version seconde en particulier. Donc, quelle est cette charge, quel est ce travail, ce service pour l'Assemblée et le Seigneur? C'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de fausse doctrine qui entre. Voilà pourquoi Paul dit, mais c'est une œuvre bonne. Oui, parce qu'on a besoin en particulier de conducteurs spirituels qui soient fermes dans la parole, affermis dans la foi, dans la sainte doctrine, et donc qui puissent surveiller le troupeau, comme Paul dit aux anciens d'Éphèse dans Actes 20. Ça faisait partie de leur travail. Alors, celui qui aspire à ce service dans l'Assemblée, à partir du verset 2, il doit rencontrer certaines qualifications particulièrement spirituelles. Et c'est surtout au niveau du caractère dont Paul parle. Bien sûr, il y a les œuvres, mais les œuvres sont issues du caractère. Une personne travaille comme elle l'est dans son cœur, comme elle est dans sa foi, etc. Donc, c'est vrai que Paul, il met beaucoup l'accent sur le caractère. Voilà ce qu'il nous dit. Il faut donc. Si une personne, un frère, évidemment, parce qu'ici, on parle de conducteurs, ce sont des frères qui sont appelés à ce rôle, alors que pour les diacres, ça peut être des sœurs aussi. Mais concernant les anciens, ce sont des frères qui sont appelés à exercer ce ministère dans l'Écriture. Eh bien, il faut que... Ce « il faut » pourrait être aussi traduit par « il est absolument nécessaire ». Ils doivent rencontrer certaines obligations. Alors, il faut que le surveillant, donc l'ancien qui est appelé à surveiller, il soit premièrement irrépréhensible. Vous savez, aucun homme n'est parfait. C'est impossible de rencontrer un frère parfait. Je suis désolé si je vous déçois. C'est impossible. Ça n'existe pas. La perfection, elle est en Christ d'une façon positionnelle. Et en pratique, ben, nous sommes appelés, comme Jésus dit, à être parfaits comme le Père Céleste est parfait, mais c'est la barre est haute, elle est immensément haute, elle est inatteignable dans un sens, humainement parlant, sur terre. Mais c'est le but toujours recherché, visé. Paul ne parle pas de perfection par le terme irrépréhensible ici. C'est un mot qui voulait dire, au départ, une personne qu'on ne peut pas accuser de quelque chose. Pas quelqu'un qui a chuté, qui a trébuché, qui se relève, qui confesse sa faute et qui reprend le service. On ne parle pas de ce cas-là. On parle de quelqu'un qui peut être trouvé coupable parce qu'il pratique quelque chose qui n'est pas digne d'un serviteur du Seigneur dans l'assemblée, d'un conducteur spirituel. Donc, le fait d'être irrépréhensible, c'est le fait simplement de ne pas être trouvé coupable de quelque chose qui le disqualifierait de son service. Parce que c'est une défaillance importante de caractère, par exemple, dans son service, il y a un problème de caractère particulier qui fait qu'il est disqualifié. C'est pas quelqu'un, par exemple, qui serait prompt à réagir, mais qui reconnaîtrait quand il est prompt qu'il a fait peut-être une erreur parfois. Donc, on a besoin de frères qui ont un caractère et qui soient vraiment, qui soient fonceurs quelque part. Mais c'est vrai aussi qu'ils peuvent aller un peu trop loin s'ils le reconnaissent, s'ils agissent bien dans cette manière. Ils sont irrépréhensibles parce qu'on ne peut pas les accuser d'être continuellement comme ça. Vous voyez la différence? C'est la différence, c'est entre quelqu'un qui est continuellement d'une manière et quelqu'un qui chute parce que, voilà, il est humain et parfois il y a des situations qui nous dépassent. Mais il faut savoir le confesser, l'avouer. Et pas le tenir caché, en particulier quand nous sommes appelés à être des modèles. Et c'est ça, un ancien, hein, c'est surtout un modèle. C'est par son exemple qu'il donne une conduite spirituelle. Pas comme un propriétaire de compagnie ou quelqu'un qui agirait comme un dictateur. C'est pas le point, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il soit pas trouvé coupable de rien. Et dans toutes les qualifications qui suivent, l'apôtre Paul parle particulièrement de son caractère, de sa vie privée, de sa vie personnelle, sa vie avec les gens du dehors, sa vie avec les gens de l'intérieur de l'assemblée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Premièrement, mari d'une seule femme. Un homme, littéralement, un homme d'une seule femme. De quoi ça parle? Évidemment, ça parle de mariage monogame fidèle. Ça, il n'y a aucun doute. Ce serait le premier sens probable que Paul a voulu donner, surtout dans une culture à l'époque où il pouvait y avoir des situations de polygamie. Ce n'était pas selon le plan de Dieu original. Donc, l'homme s'attachera à sa femme, les deux, pas les quatre, cinq, six, les deux deviendront une seule chair. Donc, c'est vrai que dans un sens vraiment terre à terre, homme d'une seule femme se réfère certainement à un mariage monogame et aussi fidèle. Mais je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Non seulement un homme d'une seule femme dans ce qu'on voit en lui parce qu'il est marié à une femme, mais un homme d'une seule femme dans son cœur, dans son esprit, dans sa façon d'agir avec les autres femmes. Et là-dessus, on trouve vraiment souvent des hommes qui sont disqualifiés parce qu'ils n'ont pas une bonne attitude envers les sœurs. Il faut qu'ils aient une bonne attitude, un bon comportement, qu'ils gardent une certaine distance, qu'ils démontrent leur fidélité, non seulement de l'extérieur, mais de leur cœur aussi. Et homme d'une seule femme, quelles sont les pensées d'un conducteur spirituel par rapport aux femmes? Comment est-ce qu'un conducteur spirituel pense par rapport aux femmes? Moi, je trouve qu'aujourd'hui, homme d'une seule femme, ça devrait parler à tous ceux qui luttent avec la pornographie sur Internet. un leader spirituel ou un homme qui voudrait être un conducteur spirituel et qui aurait un problème de dépendance à la pornographie, c'est clair qu'il est complètement disqualifié du ministère. Il ne peut pas servir comme un modèle, un conducteur spirituel. Et c'est un fléau aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pris avec ce péché, mais qui n'osent pas le confronter ou en parler ou chercher la délivrance. Ils se renferment tout seuls. Ça, c'est un autre sujet dans lequel j'aimerais aller éventuellement à un moment donné plus en profondeur, mais on a besoin de confronter ce fléau. Et puis, ça disqualifie tellement de frères qui pourraient être pourtant des modèles, voilà, parce qu'ils luttent avec ce péché, mais sont vaincus quelque part parce qu'ils sont tout seuls dans leur combat. Ils en parlent très peu. La culture du secret, de tenir les choses cachées, c'est peut-être encore très fort ici aussi en Suisse. Donc, on a besoin d'aller au-delà d'autres frères qui puissent nous encourager, travailler ensemble pour confesser les péchés. Comment on fait ça, confesser les péchés les uns aux autres? C'est un commandement de Jacques. Comment on réussit à faire ça? C'est pas des confessions publiques où tous les jours on vient devant l'Assemblée et j'aimerais vous dire tous mes péchés cette semaine, ce serait terrible. Je crois que je ne fréquenterai pas cette Assemblée. Mais par contre, il y a certainement un contexte dans lequel on peut faire face à ce commandement. Et puis, parfois, on a besoin de s'encourager et d'être entouré d'autres frères dans lesquels on peut avoir confiance. Je dis frères, mais parce que je suis dans le contexte des anciens, mais c'est vrai pour les sœurs aussi. Donc, quand on voit un homme d'une seule femme, que ce soit vrai non seulement dans le mariage monogame fidèle, mais aussi dans le cœur, dans les pensées, rappelons-nous ce que le Seigneur a enseigné là-dessus aussi. Ensuite de ça, il doit être sobre. Ce mot-là est utilisé en général en lien avec l'alcool, donc de ne pas être ivre. Mais parce qu'un peu plus loin, au verset 3, il parle de ne pas être un buveur. Je crois que c'est plutôt le sens figuré qui est ici dans sobre. Et c'est sobre dans le sens de modéré au niveau de son caractère. Quelqu'un qui est sobre d'un point de vue du caractère, c'est quelqu'un qui garde le contrôle sur lui. Il a un tempérament contrôlé. C'est quelqu'un, là, il est toujours en train de péter les plombs. Comment on dirait ça? J'aurais dit sauter une coche chez nous, mais ça ne fonctionnera pas ici. Il a sauté une coche sur la guire. C'est pas possible. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de contrôle sur son caractère et que c'est continuellement comme ça. Il serait disqualifié pour être un serviteur, un surveillant, un ancien. Donc, c'est quelqu'un qui garde le contrôle, qui est modéré, mais qui reste alerte. Il est sensible, il est alerte, mais il ne réagit pas. Personnellement, je suis un exécuteur. Je ne suis pas un leader qui prend les devants. Je suis plutôt un exécuteur. J'aime qu'on me confie des charges et puis les remplir et puis voilà, faire face à ce qu'on me donne. Mais c'est vrai que je suis un gars prompt. Je suis très prompt. Et parfois, ça me disqualifierait d'être ancien. Parce que je suis trop rapide, j'explose. Alors, à cause de ce problème de caractère, je suis un gars fonceur, je suis énergique, mais parfois trop. Alors, j'ai besoin d'apprendre à être plus modéré, à garder le contrôle, surtout dans des situations qui viennent me chercher ici. La soupape, là. Alors, voilà pourquoi il faut garder le contrôle. C'est important. Ensuite, cherche dans la Darby, sage. Qu'est-ce que c'est sage? C'est particulièrement quelqu'un qui est réfléchi. Il prend la peine de penser avant, de réfléchir. Donc, il est prudent avant de... Oui, il peut trouver qu'une solution est la bonne, mais il va quand même prendre le temps de réfléchir. Donc, il y a comme le sentiment qu'on doit avancer, mais en même temps, on doit être prudent. C'est ce que ça veut dire « sage » ici. C'est pas tellement une sagesse intellectuelle. C'est plutôt une sagesse dans le caractère. Il prend le temps de réfléchir, il regarde ce qui se passe devant lui, et puis il regarde où il pose les pieds, comme on dirait chez nous. Il fait attention où il met les pieds. « Honorable ». Honorable. Le mot qui est là, il m'a surpris au départ. Kosmion en grec. Duquel vient le mot cosmos. Bien sûr, on traduit par monde souvent, mais c'est aussi le verbe qu'on utilise pour parler de cosmétique en français. Et Ça m'a fait penser à, tu sais, les cosmétiques que les sœurs utilisent, c'est pour être bien, être de bien, est-ce qu'on dirait ça ici en Suisse, arrangé. Je sais pas si je dis ça.
Non, OK, ça se dit pas. Okay. Juste par la réaction, c'est clair. Hein? Bon, elle est bien, bon, je sais pas, c'est quoi, Ginny, aide-moi. Oui, elle est bien organisée, OK, ça va?
Mais en réalité, c'est vraiment le mot qui est utilisé en grec ici, cosmion, parce que ça parle de quelqu'un qui est bien organisé dans sa vie. C'est pas que juste qu'il se maquille pour bien paraître, mais qu'il arrange bien les choses. Il a vraiment le sens de l'organisation dans sa vie. Et parce qu'il est approprié dans sa façon de gérer les choses, il attire le respect des autres. Les gens voient quelqu'un d'ordonné, de bien arrangé. Et d'ailleurs, même le mot « monde », parfois dans le Nouveau Testament, il a le sens de l'organisation du monde. Comment ce monde est organisé? C'est un peu dans ce sens que Jean dit « n'aimait pas le monde ». C'est comment le monde est organisé, comment le monde se présente. Mais ici, c'est dans un sens positif où on voit quelqu'un qui est approprié, qui attire le respect parce qu'il est bien organisé. Voilà ce que ça signifie, ce terme « honorable ». C'est pas évident, hein, « honorable ». Je suis pas certain que j'aurais compris tout ce sens-là que par la traduction d'Arby, mais vous pouvez comparer les traductions parfois parce que un seul mot, c'est difficile à dégager tout ce qu'il y a dans le texte original si on ne connaît pas, évidemment, les langues. Hospitalier, philoxenia. Ça, j'aime beaucoup ce verbe-là, ce mot-là, plutôt en hébreu, en grec, je suis tout mêlé, parce que ça parle d'amour pour l'étranger. Philo, ça vient de philéo, donc d'aimer, puis xénos, qui sont les étrangers, et d'aimer les étrangers. Et ça dit beaucoup, parce que non seulement celui qui veut être conducteur spirituel est appelé à être hospitalier, vous imaginez, quelqu'un qui prétend qu'il est ancien, mais que sa porte est fermée, et puis aucun chrétien peut aller le voir, peut jamais le visiter, peut jamais être reçu par lui, ce serait curieux, ce serait inacceptable quelque part. Mais par le fait que Paul utilise le terme « philoxenon », Ça nous parle d'accepter même de recevoir des gens qui ne seraient pas forcément de sa famille, de ses amis proches. Mais même toute personne qui pourrait avoir besoin de lui, de ses conseils, de sa direction spirituelle. Et voilà pourquoi il doit être reconnu comme quelqu'un qui a la porte ouverte. La porte de sa maison est ouverte. C'est comme ça qu'il doit être hospitalier. Ensuite, il doit être propre à enseigner, c'est-à-dire capable d'enseigner. On ne peut pas exiger d'un ancien que forcément il soit capable de prêcher depuis la tribune, publiquement, de s'adresser à des foules, etc. Ce n'est pas donné à tous. Mais par contre, il doit connaître sa Bible. Il doit pouvoir avoir cette capacité d'enseigner la parole de Dieu et vraiment de l'enseigner avec un cœur de berger. Ça, c'est toujours important, ça va demeurer à travers toutes les qualifications qu'on voit, non seulement ici, mais ailleurs, capable d'enseigner la parole. Tu n'arrives pas auprès d'un chrétien, bang, 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 avec ta Bible. On ne fait pas ça littéralement, mais parfois, dans notre attitude, c'est à peu près ce qu'on fait, on tape dessus les gens. Mais ce n'est pas le point. Ce n'est pas de cette manière. Capable d'enseigner, c'est savoir écouter les gens, et puis savoir quel est le texte approprié qui pourrait leur faire du bien. Quel est le passage qui pourrait les consoler, les encourager, peut-être même les reprendre, mais dans un esprit de douceur. Voilà ce que doit être un ancien en rapport avec cette capacité d'enseigner. Non à donner au vin, et là je crois que c'est vraiment le sens, pas un buveur, littéralement ça dit qu'il ne soit pas un buveur. Bien sûr que si quelqu'un lutte avec l'alcool, pas quelqu'un qui en prend de façon modérée, la Bible n'interdit pas de prendre de l'alcool, mais elle proscrit de s'enivrer constamment. Ça, c'est clair, c'est à travers toute l'Écriture. Et donc, il ne doit pas être reconnu comme un buveur, vous imaginez. Ça affecte le jugement d'être sous l'effet de l'alcool quand on dépasse les limites. Alors, c'est tout simple, cette recommandation, cette qualification. Ensuite, Paul nous dit qu'il doit être Non batteur. Il y a une note de bas de page. Qu'est-ce que ça dit? Non avide d'un... Non, ça, c'est pas la bonne note. Oui? Si? Je ne comprends pas Darby avec son avide d'un gain honteux. Qu'est-ce que ça veut dire, non batteur? Pardon? C'est le texte reçu qui a cette variante. Oui, merci, c'est vrai, je ne l'avais pas vu. Merci. Non batteur. En réalité, le terme utilisé dans le texte original parle de quelqu'un qui serait prompt à argumenter, qui intimide les autres. Batteur, c'est dans le sens littéral, vraiment. Ce serait comme, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui tape sur les autres, mais je pense que c'est clair. Si quelqu'un a un problème de violence et puis qui tape sur les chrétiens, je ne crois pas qu'il est appelé à être un ancien un conducteur spirituel. Je crois qu'il a besoin d'une très bonne thérapie, par contre. Mais, d'un point de vue du sens figuré, il y a des personnes dans leur caractère qui sont intimidants. Ils intimident les autres. Ils argumentent tellement rapidement que tu es incapable de placer un mot. Ça arrive, ça? Et quand ça arrive, il faudrait peut-être voir si, en tout cas, si c'est un ancien, lui dire, je crois, là, il y a un petit souci. Parce qu'un ancien ne devrait pas être comme ça. Il ne devrait pas avoir le réflexe d'argumenter rapidement et d'intimider les gens parce qu'il tient tellement son point de vue qu'il veut l'imposer. Ça, ce n'est pas du tout une qualification rencontrée par les anciens. Il ne doit pas être comme ça, mais plutôt, il doit être doux, dans le sens de tolérant. Même si les choses peut-être l'irritent un peu, les propos, la discussion, la circonstance, la situation peut-être est irritante, il doit être tolérant. Ça ne veut pas dire qu'en bout de ligne, il va laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent et puis voilà, tout passe dans l'assemblée. Non, mais il y a une tolérance. Prends le temps de respirer un peu, ça va bien passer, et ensuite, on pourra travailler. Même le terme suivant appuie ce que Paul dit au sujet de ce caractère de non-querelleur, en fait de doux, il dit non-querelleur. Donc, il est doux et non-querelleur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est pacifique. Il amène la paix. Non, mais ça déstabilise. Vous savez, quelqu'un qui est en colère, le mieux, c'est de ne pas réagir en colère et d'être pacifique parce que ça le déstabilise. Il est désarmé. Mais si le ton monte les deux, ça fait que... boum! C'est certain que ça va terminer par une explosion. Donc, quelqu'un qui est appelé et qui a à cœur d'être ancien pour être un conducteur du troupeau de par son modèle, il doit être pacifique. Particulièrement dans des situations tendues. C'est facile d'être pacifique avec des gens pacifiques. Mais d'être pacifique dans des situations tendues, difficiles, là où il y a de l'irritation, de la colère des gens, là, c'est pas facile. C'est un défi. Et il ne doit pas non plus aimer l'argent, n'aimant pas l'argent. Il n'est pas avide d'argent et de gain. Voilà, c'est vrai qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas se leurrer et se dire « Ah, moi, j'ai pas besoin de rien. » C'est pas vrai. Mais il ne faut pas que le cœur y soit attaché. Si quelqu'un est matérialiste ou attaché à l'argent, plus que n'importe quoi, et que ça domine son caractère, il n'est pas qualifié, selon Paul, pour être un ancien. Et ce n'est pas terminé. Il continue ses attributs par la suite. Et de quoi il parle après ses qualifications de caractère? Il doit conduire bien sa propre maison, verset 4, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Le verbe conduire qui est utilisé ici, il a vraiment ce sens de conduire, mais d'une manière particulière. Il parle d'être à la tête. Et d'ailleurs, Darby, ailleurs, traduit parfois le verbe qui est ici, proistemi, comme un verbe qui signifie se tenir à la tête. On est en avant. Mais pas à la tête au-dessus. C'est pas une pyramide, c'est pas une structure hiérarchique où l'ancien est en haut et tous les autres sont sous lui. Non, non, c'est linéaire. Tous les chrétiens sont en ligne, ils suivent les traces de celui qui est en avant et qui, on a une belle expression québécoise qui dit, il ouvre la trail aux autres.
Vous avez compris?
Non.
OK, maintenant je vais l'expliquer. Il ouvre la trail aux autres. Ça veut dire qu'il prend sa machette, il entre dans la jungle où c'est le maquis, là, c'est tout fermé, c'est très dense, et puis avec sa machette, il coupe toutes les branches qui font obstacle au chemin, il ouvre le chemin aux autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Il est devant pour travailler. Et par sa conduite et son modèle, il est en train de montrer le chemin aux autres pour qu'ils suivent dans ce chemin. Donc, quand on parle de conduire en lien avec un ancien dans le Nouveau Testament, c'est toujours en rapport avec quelqu'un qui travaille en montrant l'exemple. Pas parce qu'il conduit en disant « Voici de quelle façon ça va fonctionner dans cette assemblée. » C'est pas comme ça. C'est en montrant l'exemple, pas en dirigeant comme un chef d'entreprise. C'est en montrant l'exemple. Il y a peut-être des chefs d'entreprise qui montrent l'exemple aussi. Hein. Je veux pas être trop. Oui, mon exemple est peut-être pas le meilleur. Mais voilà, donner l'exemple, être à la tête en étant un modèle. Et à quel sujet, à quel niveau plutôt? Dans le caractère. Particulièrement dans le caractère. Il doit donc être à la tête, montrer l'exemple, premièrement, dans sa propre maison. Comment il conduit sa propre maison? De quelle façon il dirige sa propre maison? Ça, c'est difficile parce que, je ne sais pas ici, mais de plus en plus, on ne sait même pas ce qui se passe dans les maisons. On n'a aucune idée. Et si un ancien doit être hospitalier, ça indique que sa maison doit être ouverte quelque part pour qu'entre autres, on puisse savoir comment ça fonctionne chez lui. Si quelqu'un a de belles paroles pour dire à l'Église comment ça fonctionne, mais que chez eux, il batte ses enfants, ou il maltraite sa femme, ou il a des pertes de contrôle constantes, et puis il casse tout, ben franchement, j'exagère, mais ce serait une disqualification claire et nette. Alors, pour l'apôtre Paul, c'était important que ce ne soit pas que dans l'assemblée, mais que ça débute à la maison, en réalité. De quelle façon il gère les crises à la maison? Il faut arrêter d'essayer de se présenter avec des belles familles où tout va bien, la vie est rose. Ça n'arrive pas. On a des conflits dans toutes les familles. Il y a des difficultés avec les enfants dans toutes les familles. Il y a des relations parfois qui sont compliquées. Le point n'est pas de trouver des familles où il y a comme une auréole de sainteté qui sort de cette maison. Même dans le village, on dit « la maison là-bas, tu la vois ». Mais le point, c'est comment on agit dans des difficultés. Quand arrive une difficulté avec un enfant, comment les parents réagissent? C'est là qu'on voit le caractère d'un ancien. C'est pas forcément que ses enfants sont l'image absolue. Et moi, j'ai vu ça malheureusement, des anciens qui imposent à leur enfant dans l'assemblée vous êtes mieux de vous conduire correctement parce que faut pas nuire à ma réputation, puis etc. Puis des enfants qui étaient même sous une domination hallucinante par des contrôleurs qui voulaient pas perdre la face devant l'assemblée. Il faut que mes enfants paraissent bien. Non. En fait, ce que les gens vont voir, c'est comment on réagit avec les enfants, comment on réagit dans nos familles, comment on gère les crises. Comment on agit? C'est là qu'on voit le caractère d'une façon particulière. Et je crois que quand il dit d'être montrer l'exemple, de bien diriger sa maison, c'est en particulier comment il gère les situations chez eux. Et Paul rajoute justement au niveau des enfants, donc, qu'il doit, comment c'est dit, tenir ses enfants soumis en toute gravité, en toute soumission. Sous contrôle, c'est-à-dire que il y a des crises qui se présentent, il y a des difficultés, il gère bien, il prend ça étape par étape, il passe du temps avec ses enfants, il leur accorde du temps, de l'amour, essayer de les aider, de les soutenir. C'est un papa en particulier qui s'intéresse à ses enfants, qui passe du temps avec eux, qui lit la parole de Dieu avec eux, qui prie avec eux, qui les encourage quand ils sont dans les difficultés, qui trouve un moyen de discuter avec eux. Voilà, c'est comment il agit avec sa famille. Lorsqu'on parle de toute gravité, le texte grec parle d'être dans des principes moraux qui sont sérieux, qui sont dignes. Moi, je ne crois pas du tout
qu'un ancien doit avoir des enfants sauvés pour être ancien. Je crois pas à ça. Parce que le salut ne dépend pas du papa ni de l'ancien, peu importe sa charge. C'est Dieu qui sauve, point. Mais comment il instruit ses enfants dans la parole et comment il agit avec eux dans leur façon eux-mêmes de s'exprimer, de prendre des décisions, de prendre des positions, c'est ce qui le qualifie ou le disqualifie. Pas que ses enfants soient sauvés ou non, parce que le salut ne nous appartient pas, c'est dans les mains du Seigneur. Paul juge important de faire une parenthèse ici en disant, mais si quelqu'un ne sait pas conduire, hein, on parle de quelqu'un qui aspire à la charge de surveillant, s'il ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'assemblée de Dieu? Dans mon esprit à moi, Paul, il vient de faire cette parenthèse pour nous expliquer ce qu'il veut dire par conduire. Qu'est-ce qu'il met comme verbe en parallèle avec conduire dans ce passage? Conduire sa propre maison et l'autre verbe, prendre soin. C'est quoi dans l'esprit de Paul conduire? C'est prendre soin. Quelqu'un qui est appelé à la charge d'ancien, de surveillant, c'est quelqu'un qui doit prendre soin dans sa conduite. Pas quelqu'un qui dit « voilà comment ça fonctionne », quelqu'un qui prend soin des brebis. C'est vrai dans l'assemblée et en particulier dans sa famille. Si vous voulez avoir un bel exemple du verbe « prendre soin » de l'assemblée ici, vous lirez la parabole. Comment elle s'appelle celle-là, là, celui qui est tombé dans les mains de bon samaritain, voilà. Vous allez lire dans Luc 10, versets 34 et 35, il y a deux fois dans ces deux versets le verbe « prendre soin ». Vous savez, le pauvre malheureux, là, il était battu pour qu'on lui dérobe tous ses biens, et puis le samaritain va prendre soin de lui et va dire à l'aubergiste « prends soin de lui ». C'est exactement le même verbe. On doit prendre soin des enfants de Dieu, des croyants, si on aspire à être un ancien. C'est ce que Paul nous dit dans ce passage avec cette parenthèse extraordinaire. Maintenant, encore, c'est pas terminé, qu'il ne soit pas nouvellement converti, un néophyte, littéralement, qu'il ne soit pas un nouveau sauvé, parce qu'il n'a pas l'expérience de la foi, de la vie chrétienne. C'est parfaitement clair. Et en plus, il y a un risque qu'il s'enfle d'orgueil. Pour certains, vous savez, surtout des jeunes croyants qui sont pas jeunes nécessairement en âge, mais qui arrivent par exemple dans la quarantaine à la connaissance du Seigneur, et on a vu parfois certains d'entre eux qui auraient aimé ça être anciens, mais parce qu'ils ont vu là un poste, un rôle, une position. Hey, je suis ancien sur l'Assemblée, voilà. Et c'est le piège du diable, l'orgueil. Celui qui aspire à être ancien parce que c'est une position qu'il cherche, il a bien compris de ce que c'est que d'être un ancien. Et puis, il est en face d'un danger grave, celui d'être séduit par l'orgueil et ainsi tomber sous le jugement du diable, c'est-à-dire le jugement dont le diable lui-même a été jugé, c'est-à-dire écarté de Dieu parce qu'il était orgueilleux. C'est une façon très, très dramatique de parler, vous réalisez? Et que quelqu'un qui aspire à la charge d'ancien par orgueil, il tombe sous le jugement du diable. C'est extrême comme idée. Et ça, c'est l'apôtre Paul. Il veut montrer que c'est très important le caractère de celui qui aspire à être ancien. En plus, comment est-il avec les gens du dehors? Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour qu'il avait connu un ancien qui se querellait avec tous les voisins qu'il rencontrait. Ben, Paul, il dirait, ben, tu peux pas être ancien, je suis désolé. Il faut que les gens du dehors, même ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui pourraient peut-être te calomnier, dire des choses fausses sur toi, ben, il faut quand même qu'ils admettent quelque part, oui, lui, il a un bon témoignage. C'est possible que les gens disent des faussetés sur nous simplement parce qu'ils nous détestent, c'est possible. Mais d'une manière générale, Paul dit c'est important que celui qui veut être un modèle du troupeau, il doit avoir un bon témoignage des gens du dehors. Même ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas dans l'assemblée, doivent reconnaître, ouais, cet homme, nous le reconnaissons, c'est tout de même un berger, un pasteur, il a un cœur pour les gens. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans deux problèmes graves. L'opprobre ou la honte publique, et d'ailleurs ce mot-là est utilisé pour parler de honte publique, ce qui met l'accent encore plus sur le témoignage envers des gens du dehors, mais aussi le piège du diable. Et je me suis demandé, c'est quoi le piège du diable? On a parlé du jugement du diable qui est l'orgueil et les conséquences de l'orgueil, mais ici, le piège du diable. Et j'aimerais mettre orgueil aussi, parce que c'est vrai, c'est un piège de tomber dans l'orgueil, mais j'aimerais rajouter hypocrisie, mensonge, formalisme religieux, etc. C'est tout ce qui caractérise les œuvres du diable. Et c'est ce qui guette parfois ceux qui veulent être anciens ou qui sont anciens. Hypocrisie, mensonge, formalisme, irritation, mauvais caractère, contrôlant, etc. Voilà, attention, c'est dangereux. Il faut se tenir loin de ces choses et s'assurer qu'il n'y ait pas ces défaillances majeures de caractère. Maintenant, dans les versets 8 à 13, l'apôtre Paul, il passe maintenant à ceux qui sont appelés comme, je les appellerais, administrateurs. Parce que on voit assez clairement à travers le Nouveau Testament que ceux qu'on appelle serviteurs, Darby, je crois qu'il a voulu éviter toute notion de distinction, de charge dans l'Assemblée en ne parlant pas, par exemple, des diacres. Mais c'est quand même le terme qui est utilisé ici, qui est, oui, signifie littéralement serviteur, mais pas serviteur en général, serviteur dans un don d'administration particulier pour le bénéfice de l'assemblée locale. Et là, il peut y avoir des hommes et des femmes qui soient appelés à ce ministère-là. Je crois qu'on trouve l'origine dans Acte 6, et vous connaissez probablement ce passage dans Acte 6, où on a choisi dans ce passage sept hommes qui avaient des qualifications spirituelles, qui étaient reconnus pour leur caractère spirituel, qui ont pu gérer l'administration de la distribution de la nourriture dans l'Assemblée de Jérusalem pour pas qu'il y ait personne qui soit négligé, mais aussi pour dégager les anciens pour qu'ils se concentrent sur la prédication de la parole de Dieu et la prière. Autrement dit, pour dégager les anciens afin qu'ils aient la liberté, le temps nécessaire aux besoins spirituels de l'Assemblée pendant que d'autres s'occuperaient des besoins plus administratifs ou matériels ou financiers de l'Assemblée. C'est aussi le rôle des anciens de superviser la gestion financière d'une Assemblée. C'est leur rôle. Mais ils peuvent et doivent le confier à des diacres ou des diaconesses qui peuvent faire le service d'une manière fidèle. Je crois qu'on a suffisamment de textes dans le Nouveau Testament qui nous amènent dans cette direction-là. Le commentaire biblique du chercheur, et je le résume, nous dit ceci, « Les diacres ont pour rôle de mener à bien certaines tâches particulières afin de permettre aux anciens de se consacrer à leurs responsabilités spirituelles. » Je le répète, les diacres ont pour rôle de mener à bien certaines tâches particulières afin de permettre aux anciens de consacrer ou de se consacrer et leur temps à des responsabilités plutôt spirituelles. Donc, de prendre soin du troupeau, de les nourrir avec la parole de Dieu, de les encourager, de faire des visites pastorales. On a besoin de ça. C'est pas pratiqué dans nos assemblées, mais il faut arriver à développer cet aspect du ministère important où les anciens visitent des couples qui ont besoin, les encouragent, trouvent des ressources pour eux, leur suggèrent peut-être des personnes vers qui aller, etc. Vous imaginez si on avait ça? Mais là, on est tous laissés un peu chacun pour soi-même, et puis, bon, débrouille-toi et c'est ta famille qui peut t'aider. Mais ce n'est pas ce que Paul enseigne. Et ce n'est pas ce que le Nouveau Testament enseigne. Bien sûr qu'il dit à la famille de prendre soin de la famille, mais le rôle des anciens dans l'œuvre pastorale, il est négligé, voire même inexistant dans plusieurs assemblées, et c'est dommage. Alors voilà pourquoi il y a des diacres aussi, des diaconesses dans l'assemblée, pour permettre aux frères qui sont appelés à être des anciens de prendre soin du troupeau. Mais qu'est-ce que les diacres doivent être aussi? Ben, Paul, il mentionne quelques qualifications. Ils doivent aussi être graves. Et encore une fois, c'est ici digne de leur ministère. Ils inspirent le respect. Et vous remarquerez bien que chacune des qualifications qui suivent au sujet des diacres et des diaconesses est particulièrement reliée à la capacité de gérer, d'administrer des choses, de par leur caractère et leur capacité. Donc, ils doivent être dignes, inspirer le respect. Tu peux pas confier la gestion de quoi que ce soit à quelqu'un qui n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Qu'il n'ait pas deux paroles, parce que ceux qui administrent dans l'Assemblée sont appelés à rendre compte. rendre compte de leur administration. Ils ne doivent pas être attachés à beaucoup de vin. Ils n'ont pas le jugement nécessaire s'ils sont attachés à beaucoup de vin. Là, je délaisse un peu la Darby pour être plutôt dans le texte littéral, mais vous allez retrouver les constructions de la Darby si vous me suivez, il n'y a aucun doute. Donc, pas attachés à beaucoup de vin, littéralement. Encore une fois, d'aller trop loin dans l'utilisation de l'alcool. Qu'ils ne doivent pas être honteusement attirés par l'argent. Comment confier la responsabilité de l'administration à des frères et sœurs qui seraient honteusement attirés par l'argent? Ce serait assez risqué. Mais qu'ils aient aussi le mystère de la foi en toute pureté de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir le mystère de la foi? C'est une expression de Paul pour vouloir dire ceci, ils doivent agir et se comporter en accord avec l'enseignement de la parole de Dieu. Le mot « foi » a souvent le sens de doctrine et d'enseignement, surtout dans les épîtres pastorales. Et quand Paul parle du mystère de la foi, il parle de doctrine, d'enseignement, de l'Évangile. Il faut donc que ceux qui sont appelés à être administrateurs, ils agissent, ils vivent en accord avec la parole de Dieu. Avec une bonne conscience, ils n'ont rien à s'accuser parce qu'ils ont bien géré les choses entre les mains du Seigneur. Mais comment on fait pour les amener dans l'exercice de leur ministère? Regardez bien ce que dit Paul. Et là, on semble voir une suite de façons de faire dans le verset 10. Et que ceux-ci, c'est-à-dire les serviteurs, les diacres, soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent étant trouvés irréprochables. Le verset peut sembler suggérer qu'on doit trouver une façon de les tester avant. Vous dites ça, de les tester, faire un test, une mise à l'épreuve quelconque. Et puis s'ils passent le test, OK, tu peux servir maintenant. Mais j'aimerais vous suggérer que parce que Paul utilise le temps présent dans le passage, c'est qu'ils doivent constamment être mis à l'épreuve. Autrement dit, ceux qui administrent dans l'assemblée, les serviteurs, les diacres, devraient constamment faire la preuve qu'ils sont qualifiés pour exercer leur ministère. Ils ne peuvent pas être blâmés et voilà pourquoi ils peuvent servir. C'est important que quelqu'un qui est appelé à servir d'une manière plus peut-être précise dans un service comme l'administration de l'Assemblée, hommes et femmes, dans ce contexte-ci, eh bien qu'ils ne soient pas trouvés sous un blâme quelconque, mais qu'ils fassent constamment la preuve qu'ils sont toujours qualifiés. Quelqu'un peut être qualifié un moment, puis être complètement disqualifié pour toutes sortes de raisons par la suite, et là, il ne serait plus apte à exercer son ministère. D'ailleurs, ça, ce serait vrai aussi pour les anciens, mais Paul met surtout l'accent sur les diacres dans ce passage. Et dans le verset 11, en utilisant la même formule d'introduction de même, donc nous comprenons qu'il parle dans le même sens avec ses recommandations, que les femmes soient graves. Et ici, certains ont suggéré que c'était les femmes des diacres. Mais ce qui serait intéressant de noter, c'est que si c'était le cas, il y aurait certainement un lien direct entre les femmes et les diacres. Genre, que leurs femmes. Mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt que les femmes de manière générale. Et si c'était leurs femmes, pourquoi il n'y a rien dit au sujet de la femme de l'ancien? Donc, il y a beaucoup d'arguments qui vont en faveur, et John MacArthur enseigne exactement la même chose que je vous présente ce matin. Je suis convaincu que c'est la bonne interprétation. Il s'agit de femmes qui peuvent être appelées aussi à exercer un rôle d'administration dans l'Assemblée. Chez nous, nous avons une diaconesse qui s'appelle Julie dans notre Assemblée, et c'est Julie qui règle toutes les questions de comptabilité, de budget de l'Assemblée, en travaillant en collaboration avec les diacres et les anciens. Puis elle fait un boulot remarquable. C'est la comptable même de Profac, le ministère qui me soutient dans l'œuvre. Et voilà, il y a des sœurs comme ça qui ont des dons d'administration, de gestion, de capacités particulières qui peuvent s'impliquer dans des ministères différents au sein de l'Assemblée, tout en travaillant, bien sûr, en collaboration avec les anciens qui sont, eux, responsables de l'Assemblée devant Dieu. Voilà pourquoi, quelque part, elles sont placées aussi comme les diacres hommes sous l'autorité pastorale, je dirais, des anciens. Alors, de même que les femmes soient, même terme qui est utilisé pour les anciens auparavant, digne ou grave, on voit à quelques reprises ce mot dans Darby, c'est-à-dire digne inspire le respect de par leur gestion, de par leur administration, et particulièrement qu'elle ne soit pas diabolos. Ça fait toujours... Hein? Les femmes ne doivent pas être diabolos dans ce passage. Qu'est-ce que Darby a mis comme... Médisante, voilà. Médisante. Diabolos, au pluriel. C'est de là que vient le mot diable. Hein? C'est un médisant. Et l'autre mot pour ça, c'est calomniateur. Donc, calomniateur. Et qu'est-ce que ça veut dire? Doit tenir sa langue. Donc, non médisantes, en particulier les sœurs qui veulent avoir ce rôle et veulent... Là, elles ont un cœur pour servir. Et ça ne doit pas être des sœurs qui ne savent pas tenir leur langue. Donc, en disant non pas médisantes, c'est qu'elles aient du contrôle sur leurs paroles et pas de calomnie. Ensuite, qu'est-ce que Paul utilise comme terme encore? Le terme sobre, normalement en lien avec l'alcool, mais probablement que le terme est utilisé ici dans le même sens figuré que les anciens. Modéré, garde le contrôle et sois alerte aussi en même temps. C'est intéressant qu'on trouve les mêmes qualifications spirituelles pour les sœurs appelées au diaconat que les anciens dans l'assemblée. Modéré, qui garde le contrôle, alerte et fidèle en toutes choses. Je trouve que les quatre qualifications toutes simples que Paul donne ici pour les sœurs diaconesses, digne, inspire le respect, ne pas, enfin, tenir sa langue, pas de calomnie, ensuite, modéré, garde le contrôle, alerte et fidèle en toutes choses. C'est exactement ce qu'on a besoin pour des sœurs qui veulent servir le Seigneur dans l'administration de différents ministères ou différentes choses dans l'Assemblée. Voilà. Et l'apôtre Paul a bien encadré tout ça. Il nous a donné autant de caractéristiques ou de qualifications spirituelles, de conduite, de caractère pour les frères et puis les sœurs. Et il revient sur le sujet des diacres juste après au verset 12, en mentionnant qu'eux aussi, ils doivent bien conduire leurs enfants et leur propre famille et leur propre maison en particulier. Ce terme-là, maison, il est assez large en grec. Il peut inclure les gens qui vivent dans la maison, mais aussi tout ce qui entoure la maison, le jardin même. Autrement dit, qu'ils gèrent bien leurs affaires. Il faut que les diacres démontrent qu'ils savent administrer en dehors de l'Assemblée s'ils veulent administrer dans l'Assemblée. Et qu'ils soient aussi des maris d'une seule femme, même chose que les anciens, fidèles, caractère moral solide par rapport aux relations hommes et femmes. Je fais juste une parenthèse comme ça, mais quand je travaillais dans le ministère plein temps dans une église baptiste à Shawinigan Sud, c'est tout près de chez nous, c'est entre 2005 et 2008. En fait, c'est là que j'ai commencé l'œuvre à temps plein pour le Seigneur. Puis c'est une assemblée avec laquelle on travaille beaucoup encore aujourd'hui. Et puis, j'avais un bureau dans l'assemblée. J'étais à plein temps, j'étais en charge de tout le programme d'enseignement de cette assemblée-là. Puis j'avais un bureau là, et la première chose que j'ai faite en arrivant dans cette assemblée, c'est une politique. Une politique d'assemblée locale sur les relations hommes-femmes. Alors, puisque j'avais un bureau dans l'assemblée, j'avais établi comme politique que je n'accepterais aucune rencontre seule avec une femme dans mon bureau à l'assemblée. Et puis, toute l'assemblée était d'accord, on l'a présenté publiquement, on a dit « voici ce qu'on demande, parce qu'on doit s'assurer de garder un bon témoignage, de s'éviter des occasions peut-être de pièges, de chutes, etc. » Donc, on donne les outils nécessaires. C'est un peu de ça que Paul parle quand il dit qu'ils savent bien conduire leurs choses, qu'ils ont des caractères moraux ou moraux solides. Voilà ce dont il parle. Verset 13... Car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux. Pouvez-vous m'expliquer cette phrase-là? Acquérir un bon degré pour soi. OK. Bon, peut-être que dans le temps où Darby a écrit ça, ça avait du sens, mais personnellement, je ne comprends rien du tout. Je ne sais pas vous que ça dit, mais est-ce que ça existe encore d'ici de parler d'atteindre un bon degré? Est-ce que vous atteignez des bons degrés, vous? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et là, si vous ne connaissez pas le grec, vous avez l'outil de comparaison. Vous prenez plusieurs versions et vous pouvez les comparer ensemble. Mais c'est vraiment l'idée d'acquérir. Ceux qui servent bien vont acquérir pour eux-mêmes, et là je vous propose quelque chose, un progrès spirituel. Ils vont acquérir un avancement dans la maturité. Un bon rang ou un bon degré veut dire qu'ils vont faire du progrès spirituellement. Plus on sert le Seigneur de la bonne manière en s'assurant de rencontrer les qualifications, plus on prend de la maturité dans la foi, plus on prend de la crédibilité dans le ministère, plus on confirme notre témoignage et notre appel. Voilà ce que ça signifie, acquérir un bon degré. Prendre de la maturité, prendre de l'expérience, faire du progrès, et puis confirmer notre capacité, soit d'ancien de bien gérer spirituellement les besoins de l'Assemblée, soit diacre, homme et femme, pour bien gérer les différents besoins de ministère, etc., en collaboration avec les anciens, eh bien, nous établissons notre témoignage. Et non seulement cela, mais qu'est-ce qu'il parle aussi dans le verset 13? Un bon degré et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Ça aussi, c'est une phrase qui... C'est beau, là, c'est plein de beaux mots, c'est spirituel, mais je comprends rien. Qu'est-ce que ça veut dire acquérir une grande hardiesse dans la foi? Le mot hardiesse parle de liberté de parole. Il parle d'assurance, de confiance. C'est quelqu'un qui, à force d'exercer un bon ministère, de bien montrer ses qualifications spirituelles, sa bonne gestion, eh bien, plus il progresse, plus il a la confiance, non seulement de lui-même, mais de ceux qui sont placés sous sa direction spirituelle ou sous sa gestion, son administration. Il acquiert une grande assurance dans la foi qui est en Christ Jésus, et je crois que c'est ici, c'est que son témoignage est affirmé, confirmé dans la parole de Dieu, parce qu'il est en train de servir en accord avec ce que la Bible enseigne. Quelqu'un qui acquiert une grande hardiesse dans la foi qui est en Jésus, c'est quelqu'un qui est en train d'acquérir la crédibilité de son ministère parce qu'il est conforme à ce que la Bible enseigne. Il est conforme à ce que la foi, dans le sens doctrine, enseigne dans ce passage. Voilà ce que Paul enseigne sur le caractère et la conduite des anciens et des diacres, hommes et femmes, dans la vie de l'assemblée locale. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a un témoignage à rendre, et c'est la conclusion du chapitre, ce sont les trois derniers versets. Paul, il dit, je t'écris ces choses. Je crois qu'il signifie ces choses en particulier dont je viens de parler, mais on ne peut pas, c'est tellement général qu'on ne peut pas limiter seulement à l'enseignement de Paul sur les anciens et les diacres. Je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin pour dire, je t'écris cette épître. Je t'écris cette épître et tout ce que j'ai dit, entre autres dans le chapitre 2, au sujet de la femme, au sujet des hommes aussi, de leur caractère, etc. J'ai écrit tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai un but spécifique. J'espère me rendre bientôt vers toi, mais si je n'arrive pas, de par ma lettre, tu puisses savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant. Autrement dit, que tu saches comment il faut se conduire, en particulier ceux qui sont des leaders et ceux qui sont appliqués à l'administration. Il faut que tous ceux qui servent le Seigneur, qui font partie de l'assemblée, qu'ils aient un bon témoignage parce que l'assemblée, elle est, en quelque part, et c'est ce qu'il appelle la colonne et la base de soutien de la vérité. Vous savez, c'est le témoignage qu'on donne au monde extérieur, ce qu'on est ici à l'intérieur, mais aussi à toute l'Église de Jésus-Christ. Comment on se conduit à l'égard de toute l'Église? Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous revient sur le sujet du mystère de la piété. Quand vous lisez « mystère de la piété », pensez encore à ce que l'Écriture enseigne, tout ce que l'Écriture enseigne. Et là, Paul finit avec un hymne. Ça, c'est un hymne de l'Église primitive. La construction se voit pas tellement bien, mais en français, mais on le voit quand même. Remarquez tous les « a été ». Vous voyez ça? « A été manifesté, a été justifié, a été vu, a été prêché, a été cru, a été élevé. » Ça, c'est un hymne. Vous pouvez mettre ces paroles-là une au-dessus de l'autre, là, chaque phrase, puis ça dit quelque chose en rapport avec l'œuvre de Christ dans le salut et la fondation de l'Église locale. Et donc, il nous parle de Christ manifesté en chair. C'est le départ même de l'Assemblée. C'est que Jésus est venu ici-bas et il a donné sa vie. Manifeste en chair veut dire qu'il est pleinement homme. Justifié en esprit veut dire qu'il est pleinement Dieu. Vu des anges, ça veut dire que même le monde spirituel, bons et mauvais anges, témoignent à l'œuvre de Christ et savent que ce qu'il a fait est parfait. Prêcher dans le monde, c'est la prédication de cette œuvre de Christ. Conversion, c'est la suite. Cru, c'est des conversions, ça. Ils se sont convertis. Et finalement, l'ascension élevée dans la gloire. Autrement dit, on chantait ce cantique pour exprimer tout ce que Christ a fait. Et l'Église, quand elle fonctionne normalement, elle est un témoignage à ce que Christ a fait. À tout ce que Jésus est. C'est pour ça qu'il termine avec cette doxologie, cette parole de gloire, ces paroles de cantique en nous disant, voilà le témoignage d'une assemblée qui fonctionne spirituellement, avec un caractère spirituel et des œuvres spirituelles. Nous allons prier ici. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette richesse, cette profondeur. Merci parce que dans ton plan sage, c'est toi le souverain berger, mais tu as voulu qu'il y ait des bergers aussi sur l'assemblée, et dans l'assemblée qui s'y implique par un modèle de vie transformé, par un caractère d'hommes et de femmes de Dieu. Merci Seigneur parce que ouais, tu as voulu qu'il y ait des anciens, des diacres dans ton assemblée. Nous prions Seigneur que tu puisses établir ces hommes, ces femmes qui servent pour le bien de l'assemblée, pour le progrès de l'assemblée, pour l'avancement, pour rencontrer tous les besoins d'une assemblée. Seigneur, nous te prions que de plus en plus dans nos assemblées de Suisse romande, ils puissent y avoir, Seigneur, des frères qui aient à cœur d'être des modèles du troupeau et de donner une direction spirituelle par leur caractère spirituel. Prions aussi, Seigneur, de susciter des hommes et des femmes qui veulent servir, administrer, faire progresser l'œuvre, faire avancer les choses dans un travail de soumission les uns envers les autres, d'obéissance à ta parole, afin, Seigneur, que le corps soit édifié, qu'il se développe bien, et qu'ils puissent ainsi être affermis dans les vérités des Saintes Écritures. Seigneur, nous te remettons cet enseignement entre tes mains. Fais un travail dans nos cœurs, chacun selon ce qu'on a besoin de retenir, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.
Gilles, est-ce que tu as entendu une question?
Oui, volontiers.
C'est une question par rapport à hier soir, mais par rapport à ce dernier verset aussi.
Oui.
Avant ta réunion, j'ai relu, parce que tu as donné ce conseil, mais avant j'ai relu l'introduction à la version Darby là, de 1872. Je peux que vous encourager à le faire, vous trouvez ça sur BibliQuest.
Oui.
Vous avez cette version.
Et juste une parenthèse. Et la préface sur BibliQuest, elle est même déjà divisée par sujet. Donc, c'est plus facile à suivre. Alors, quand il arrive dans le sujet de la critique textuelle, vous pouvez simplement la laisser de côté, mais ouais, voilà, ça voilà. Facilite.
Alors, il dit, il y a trois passages douteux dans le Nouveau Testament. Marc 7, ça en sait. Jean 8, alors Jean 8, il dit, bon, moi, je crois que c'est... Il l'explique pas tellement. Et puis, 1 Timothée 3, 16. Et il dit, on en a déjà tellement parlé que je rajoute rien. Alors, ça n'aide pas beaucoup. Donc, hier soir, après ta réunion, je suis allé chercher mon Nouveau Testament, puis j'ai regardé sa note, parce que ça, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, si j'utilise ça, c'est surtout pour les notes. Et ça rend humble, et je n'ai rien compris à sa note sur 1 Timothée 3, 16, passant des bonnes connaissances de grec, tu ne comprends pas ce qu'il explique. En quoi ce verset est douteux? Est-ce que c'est ce mot « Dieu » qui n'est pas dans l'original et qui pose problème parce qu'on le rajoute en français pour la compréhension du texte, ou bien il y a autre chose qui rend ce verset... Et pourquoi est-ce qu'on a passé dans Fauvevers à une demi-page de commentaires et ici, dans cette version, il n'y a même pas une note? Qu'est-ce qui a fait que ce verset difficile?
Ok, premièrement, pourquoi il est dans... Moi, j'ai le texte de 1885, je résume ici, peut-être un peu révisé à travers les dernières années, mais il est là. Et c'est vrai que dans les premiers Nouveaux Testaments que lui-même éditait, il était soit en note, laissé de côté ou critiqué. Ça c'est clair. Ce qu'on doit comprendre, c'est que s'il est resté dans cette édition, c'est parce qu'il y a quand même un témoignage important à ce verset dans plusieurs sources documentaires liées au Nouveau Testament. C'est-à-dire, on le trouve dans plusieurs manuscrits grecs, on le trouve dans les citations des pères de l'Église et on le trouve dans des versions anciennes. Pourquoi Darby était critique au sujet de ce verset précisément? J'ai jamais fait la recherche et je ne peux pas savoir à ce point-ci. Mais par contre, parce que j'ai déjà fait le travail ailleurs, parfois c'est parce que le texte, il le jugeait mal appuyé dans certains manuscrits qu'il rejetait déjà au départ. Alors peut-être que c'était la raison. Le point est que c'est vrai que le nom Dieu n'est pas dans le verset. Ça, c'est clair. Est-ce que c'était la raison de Darby? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que le nom de Dieu n'est pas là, c'est plutôt un pronom relatif qui est là. On a mis Dieu. Mais en réalité, dans l'ensemble des témoignages que nous avons au texte, c'est plutôt lequel, pronom masculin singulier relatif. Et en disant lequel a été manifesté en chair, pour nous c'est tout de suite clair, on parle de Christ. Donc c'est du Seigneur dont il est question ici. Il n'y a pas ni Christ ou Dieu dans le passage, simplement un pronom relatif, mais par tout ce qui est dit par la suite, c'est clairement le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, parce qu'il y a des manuscrits où on a inséré à la place du pronom « theos » au lieu de « chos », c'est juste une différence de deux lettres. Eh bien, parce qu'on a inséré « theos », c'est peut-être la raison qui a poussé Darby à dire « ça, c'est pas original, c'était pas là, donc on discarte le verset ». Donc, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer l'attitude de Darby. Je suis étonné sur ce verset-là, mais pas sur Marc et pas sur Jean. Parce que là, on comprend, c'est beaucoup plus net et clair le problème d'appui textuel. Mais quoi qu'il en soit, il est là. Il est là aujourd'hui. Et puis, il est dans la plupart, sinon dans toutes les versions. Et à mon sens, à moi, même si, par exemple, il ne serait pas dans les plus vieux manuscrits, il a trouvé sa place au fil des ans dans le texte. Il est suffisamment bien appuyé pour qu'on le conserve tel qu'il est. Et quand vous lisez, vous comparez des versions et vous verrez Dieu au lieu de Jésus, la différence, elle est mineure. Parfois, c'est qu'il n'y a ni un ni l'autre dans le texte, mais le traducteur a décidé d'insérer l'un ou l'autre pour donner du sens en français à la phrase. En grec, c'est pas tellement le nom ou le pronom qui est utilisé qui donne le sens. C'est tout ce qui est dit au sujet de ce pronom. Et parce qu'il est dit manifesté en chair, au départ, Dieu le Père n'est pas manifesté en chair. Mais on peut aussi dire, parce que Jésus est Dieu, que Dieu a été manifesté en chair puisque c'est dit ailleurs. Avec tout le reste qui suit, par contre, on est clairement identifié à Jésus sans aucun doute. Donc, dans la Trinité, c'est le Fils dont il est question ici. Et c'est comme ça qu'on devrait comprendre Dieu dans notre Darby. Dieu a été manifesté en chair, Jésus. Il est Emmanuel, après tout. Dieu avec nous.
Bon, il est aussi Dieu, parce que c'est la maison de Dieu. Et c'est ce mot-là qui est repris dans le lequel. C'est pour ça qu'on traduit par Dieu. Et...
Oui.
D'accord. Donc,
il est loin.
De chercher, alors.
Oui. Mais il est quand même loin dans le texte, Dieu. Parce que tu fais le lien avec l'antécédent. Puis tu as raison de faire ça d'un point de vue grammatical, mais d'un point de vue grammatical, il est loin dans le texte Dieu par rapport à lequel.